Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi 2 avril 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Aujourd'hui, c'est le tour des 5 plus 1 d'accomplir leurs obligations, a souligné le président iranien Hassan Rouhani. La confrontation avec l'Occident a touché le fond. Les États-Unis jouent avec le feu, selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Les drones de la résistance yéménite ont visé des sites sensibles à l'Arabie Saoudite. La Tunisie et l'Algérie se prononcent en faveur du développement de la coopération bilatérale. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a mis en garde ce jeudi contre l'inaction de certaines parties signataires de l'accord multilatéral sur le nucléaire de 2015 et a déclaré aujourd'hui et dans les circonstances actuelles, c'est le tour des 5 plus 1 de remplir leurs devoirs liés au plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien. Qu'ils sachent que chaque jour de retard est à leur détriment, a-t-il souligné. Le peuple sait que les efforts conjugués en faveur des mouvements islamiques depuis avant la révolution constitutionnelle iranienne jusqu'à la victoire de la révolution islamique du 11 février 1979 ont porté leurs fruits en donnant naissance en un de tels jours à la République islamique d'Iran. C'est le fruit le plus précieux du meilleur arbre de l'histoire, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani, faisant allusion au 12 Farvardin, premier avril, jour où le peuple iranien en 1979 a voté à plus de 90% pour l'établissement de l'ordre de la République islamique en Iran. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déploré que l'Occident ait rendu courant le terme « guerre » dans les échanges internationaux, entraînant la détérioration des relations avec la Russie, qui sont actuellement au plus bas. La confrontation avec l'Occident et la Russie a touché le fond, mais Moscou espère que tout le monde comprend les risques que cela représente, a déclaré Sergueï Lavrov. D'une part, la confrontation a touché le fond. D'autre part, il y a l'espoir que tout le monde est adulte et comprend les risques associés à l'escalade de la tension, a-t-il souligné encore. Selon Sergueï Lavrov, l'Occident a introduit le mot « guerre » dans l'usage diplomatique international alors que ses relations avec la Russie continuent de se dégrader. La guerre hybride déclenchée par la Russie est une phrase fréquemment utilisée qui décrit ce que l'Occident considère comme l'événement principal de la vie internationale. Mais j'espère que la raison triomphera, a souligné le ministre russe des Affaires étrangères. Commentant les sanctions adoptées par les États-Unis contre Moscou et le projet d'élargissement de l'OTAN vers l'Est, M. Lavrov a estimé que les États-Unis jouaient avec le feu et pratiquaient l'absurde. La résistance yéménite a visé des sites sensibles à l'Arabie saoudite. L'armée de l'air yéménite a mené une attaque contre la capitale de l'Arabie saoudite, a affirmé le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. 4 drones ont visé des sites sensibles importants à Riyad, a souligné M. Sari, ajoutant que les frappes étaient précises. Cette opération est une riposte normale et légitime à l'agression et au blocus imposé à notre pays, a-t-il affirmé, promettant davantage d'opérations. Nos forces ont pris pour cible la base aérienne du roi Khaled dans la ville de Khamis Mouchat au moyen de 2 drones chargés d'explosifs. La cible a été touchée avec précision, a souligné le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, s'est entretenu avec la ministre irakienne de l'immigration et du déplacement Evan Faer Gabro de la coopération bilatérale et de la situation des immigrés dans les deux pays. Faisal Miqdad a affirmé la nécessité de renforcer les relations et d'approfondir la coopération entre les deux pays frères dans tous les domaines, faisant savoir que la Syrie accueille favorablement le retour des réfugiés syriens à la patrie et prend les mesures et les facilités qui assurent les conditions garantissant le retour volontaire et sûr et des bonnes conditions de vie pour les rapatriés, précisant que certains pays occidentaux abordent cette question de façon politisée et continuent à imposer les mesures coercitives et unilatérales et à décourager les réfugiés à retourner à leur pays sous de vains prétextes. Pour sa part, la ministre irakienne de l'immigration et du déplacement a souligné l'importance des relations entre l'Irak et la Syrie, a exprimé la volonté de Bagdad de coopérer avec le gouvernement syrien pour faciliter le retour volontaire des Irakiens se trouvant en Syrie et des Syriens se trouvant en Irak et toutes les procédures liées à cette affaire. Et toujours à propos de cette rencontre, les deux parties ont convenu de déployer tous les efforts qui encouragent les réfugiés à retourner à leur pays et de poursuivre la communication pour lever les obstacles qui entravent le retour sûr et volontaires de ces réfugiés. À noter que la ministre irakienne de l'immigration et du déplacement est arrivée à Damas dans une visite officielle destinée à discuter de la coopération conjointe entre les deux pays et la situation des Irakiens se trouvant en Syrie. La Tunisie et l'Algérie se prononcent en faveur du développement de la coopération bilatérale. Le président tunisien Kais Saied a reçu un message de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, annonçant la présidence de la République tunisienne. Dans un communiqué, la présidence tunisienne a indiqué que ce message a été transmis par le ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadoum, reçu en fait au palais présidentiel de Carthage par le président tunisien. L'entretien a porté, selon le communiqué, sur les relations historiques qui unissent les deux pays ainsi que les moyens susceptibles de les promouvoir. Les deux chefs d'État ont également évoqué la situation dans la région. Cité par la présidence de la République, Kais Saied a assuré à son homologue algérien que le développement de la coopération et du partenariat entre les deux pays, outre le renforcement de la concertation sur les questions bilatérales, régionales et internationales, constitue un choix durable. Dans ce sens, M. Saïd a transmis au président algérien ses sincères salutations en lui faisant part de sa forte détermination à continuer à œuvrer de concert pour réaliser les aspirations des deux peuples frères à davantage de solidarité et de complémentarité. Dans une déclaration après sa rencontre avec le président tunisien, le chef de la diplomatie algérienne s'est félicité de la qualité des relations distinguées unissant son deux pays avec la Tunisie et les deux peuples respectifs, estimant par la même occasion que la Tunisie et l'Algérie partagent un passé glorieux et se trouvent face à des défis communs avec les mêmes attentes pour davantage de progrès, de prospérité, de paix et de stabilité. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran met en garde contre l'inaction de certaines parties signataires de l'accord nucléaire de 2015, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le président iranien Hassan Rouhani mettant en garde contre l'inaction de certaines parties signataires de l'accord nucléaire de 2015 a déclaré aujourd'hui et dans les circonstances actuelles, c'est le tour des 5 plus 1, États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni plus l'Allemagne, de remplir leurs devoirs liés au plan global d'action COCOCO conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Qu'ils sachent que chaque jour de retard est à leur détriment, a-t-il souligné. Soulignant que nous devons rendre hommage au vrai sens du terme à ce jour, le 12 Farvardin de l'Égypte solaire, soit le 1er avril, il a déclaré, nous devons préserver les trois principes qui fondent la République islamique d'Iran, à savoir la République l'Islam et la nationalité iranienne. La République islamique d'Iran a trois piliers fondamentaux que nous devons les préserver. Il faut profiter des conditions spéciales offertes à la population à cette réalisation, ainsi c'est le président Rouhani. La journée de la République islamique est le 12 Farvardin de l'Égypte solaire du calendrier iranien, soit le 1er avril, lors d'un référendum historique de 2 jours tenu le 30 et 31 mars de 1979, plus de 88% des Iraniens éligibles ont voté vie pour l'établissement d'une république islamique dans le pays. faisant référence à une guerre économique menée par des ennemis contre la République islamique d'Iran. Le président Rouhani a déclaré « Nous n'avons pas commencé cette guerre. Même après que cette guerre nous ait été imposée, nous avons continué à remplir nos engagements liés à l'accord nucléaire pendant une année complète. » Hassan Rouhani a qualifié la patience et l'endurance iranienne de plus grand honneur de la nation iranienne en termes moraux, politiques et historiques. La nation iranienne a prouvé au monde qu'elle n'est pas pour la guerre et que toutes les activités nucléaires du pays ont été menées à des fins pacifiques, a-t-il encore insisté. C'est maintenant le tour des 5 plus 1 de remplir leurs devoirs liés au plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien. Au vu des circonstances actuelles, a souligné le président Rouhani. Chaque jour de retard dans le respect de leurs obligations prévues par le plan global d'action conjoint et la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU qui endosse l'accord serait préjudiciable non seulement à eux, mais au monde entier, a souligné le président Rouhani. Certes, nous continuerons sur la voie de la production, du développement, de l'éthique et de l'interaction constructive jusqu'au bout, a conclu le président Rouhani.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler d'Israël, justement Israël qui tend la main à l'OTAN pour compenser ses pertes et ses défaites stratégiques et militaires contre le Hezbollah libanais. Justement, Israël fait tout pour bloquer catégoriquement des institutions libanaises et affaiblir la monnaie nationale. Malgré cela, le Liban a su rester debout. Alors, ce qui choque, chers amis, c'est bien la France qui est tombée dans le piège d'Israël et suit le modèle d'Israël et celui des États-Unis dans la région. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Vous restez avec nous, je vous prie.
Début février, dans une démonstration de force bien calculée, le Hezbollah et Gaza se sont livrés à une chasse croisée des drones israéliens, chasse que la résistance libanaise a fini en beauté, en interceptant puis en détruisant un Hermès 450 tactique israélien. L'affaire a fait beaucoup de bruit en Israël, où les experts y ont vu un coup de buck russe livré au Hezbollah, criant la fin de la supériorité aérienne d'Israël dans le ciel du Liban. La banque de données que remet Kochavi à Macron ne relève donc que d'un coup de bluff qui cache une capitulation aérienne d'Israël. Mais ces derniers jours, on n'a pas eu droit qu'à l'idylle anti-Hezbollah Paris-Tel Aviv en plein Élysée. Dimanche soir, le sioniste Gilad Erdan a aussi jasé devant le Conseil de sécurité, se plaignant avec le même culot que Kochavi qui parlait à Paris de la violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité par le Hezbollah. Encore du Hezbollah qui poursuit son renforcement militaire et qui devrait être neutralisé par une finule dont la neutralité commence à bien faire. Erdan a donc ainsi formulé un plan B, travaillé pendant les 12 derniers mois de la présidence Trump, mais qui, en dépit des efforts de l'ambassadrice Shea, a là encore échoué. La modification de la mission de la finule, en faire un taupe d'Israël, et ce, à l'effet de localiser les stocks d'armes et de missiles du Hezbollah. D'ailleurs, les Britanniques ont déjà commencé le boulot. Qui sont une source bien informée, ont construit 39 tours d'observation et 7 bases, ainsi qu'un centre d'opération militaire le long de la quasi-totalité de la frontière avec la Syrie, ce qui fait plus de 100 km. Là, il y a de tout, les équipements électroniques et de communication par satellite dernier cri, reliés au centre de commandement et de contrôle de l'armée libanaise que Londres aime et chérit et dont les effectifs sont entraînés et formés régulièrement dans l'espoir de les voir un jour se retourner contre le Hezbollah. qui sont liées aux satellites peuvent être interceptées par les services de sécurité et du renseignement actifs dans la région, notamment ceux d'Israël, des USA, du RU et de la France. L'objectif étant de surveiller, sans le dire évidemment, les mouvements du Hezbollah et ses voies d'approvisionnement militaire le long de la frontière.
Voilà, vous regardez l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à mon collègue Philippe Hugon.
C'est un plaisir de vous recevoir sur l'antenne, M. Luc Michel. Un grand bonjour, comme vous l'avez dit, à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Oui, bonjour à toutes les équipes, à vos auditeurs et bien sûr à mon ami Luc Michel.
Voilà, vous semblez d'être amis, les deux invités. J'espère que ça ne va pas vous empêcher de vous contredire dans cette émission qui s'appelle Le Débat. Alors, ma première question va s'adresser à M. Luc Michel depuis Bruxelles. Alors, M. Michel, Israël fait tout pour donc bloquer des institutions libanaises et affaiblir la monnaie nationale, et surtout qu'après avoir perdu sa suprématie aérienne dans la région, Israël tend la main à l'OTAN. Pourquoi, à votre avis?
Il faut comprendre qu'on est entré avec Joe Biden et Kamala Harris dans une nouvelle ère géopolitique. Les États-Unis sont en train de resserrer les liens du bloc américano-occidental autour de trois OTAN, en fait, l'OTAN traditionnel en Europe occidentale, le projet d'OTAN du Proche-Orient avec Israël, les Saoudiens et les Émiratis, et enfin une OTAN du Pacifique. Vous savez que dans les années 60, il y avait l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est. C'est le resserrement, la reformation de cette alliance dans ce qu'on appelle le Quad, c'est-à-dire les Australiens, les Néo-Zélandais, les Coréens du Sud et les Japonais. Au milieu de tout ça, le deuxième phénomène, c'est la montée en puissance de la Russie de Poutine, qui maintenant, à marche forcée, redevient une grande puissance mondiale. C'est une Russie moindre géopolitiquement que l'Union soviétique. Vous savez qu'en 1992, la Russie a perdu en fait les 2/5 de son territoire et la moitié de sa population, mais c'est composé par la création de ce qu'on appelle l'axe Moscou-Pékin et qu'on peut même appeler un axe Moscou-Pékin-Téhéran. Vous savez que dans la première guerre froide, ce qui avait permis la victoire des Américains, c'était que les États-Unis et les Chinois, après la visite de Nixon et de Kissinger à Pékin en 1972, avaient formé un axe contre l'Union soviétique. Maintenant, les Chinois ont compris qu'ils se sont fait rouler dans l'affaire. La récompense de la défaite de l'Union soviétique, ça a été tiré à peine. Et donc aujourd'hui, les Chinois savent qu'ils ont besoin d'une alliance géopolitique solide, ce qu'on appelle une alliance géopolitique dos à dos, s'appuyant sur la Russie. Au milieu de tout ça, évidemment, ça a changé les rapports de force au Proche-Orient. Et je vais donc maintenant répondre à votre question. Les Israéliens eux-mêmes saluent dans Poutine le nouveau tsar du Proche-Orient. La victoire de la Russie dans la guerre de Syrie, la parité stratégique rétablie entre Israël et l'axe de la résistance, tout ça, ça a changé profondément. Les Israéliens, avec les Français et les Américains, ont tenté de profiter de la catastrophe de Beyrouth pour mettre le crapin sur les institutions libanaises et écarter le Hezbollah. Vous rappelez que Macron était venu à deux reprises jouer le proconsul à Beyrouth, un proconsul colonial. Ça n'a pas marché parce que, justement, la Russie s'est opposée aux plans occidentaux et a soutenu l'axe de la résistance. Aujourd'hui, on est dans une situation profondément changée si on regarde 5 ans d'après. Le Hezbollah est classé par l'Union européenne et par les Américains sur la liste des organisations terroristes. Mais aujourd'hui, le Hezbollah est reçu quasiment comme une puissance étatique diplomatique à Moscou. C'est tout ce qui a changé. Le ton aussi a changé puisque l'administration Biden, qui marche à grands pas sur les pas de Trump, s'est livré dans une confrontation agressive. Et hier, d'ailleurs, les Russes ont changé de vocabulaire. Jusqu'ici, qu'il y avait l'hypocrisie diplomatique, Lavrov parlait de nos partenaires américains. Hier, pour la première fois, qu'ils ont défini les Américains dans un communiqué comme dans un but. C'est fondamental, et c'est fondamental évidemment pour les peuples du monde qui refusent l'impérialisme et le néocolonialisme.
Oui, merci, M. Michel. À présent, M. Philippe Hugon, depuis Paris. M. Hugon, j'aimerais connaître votre avis sur cette prise d'opposition de la France qui est au cœur de l'OTAN. On a l'impression qu'après cette visite de hauts responsables israéliens en France, entre autres, Macron est sous les ordres d'Israël et suit exactement le modèle d'Israël et des États-Unis dans la région au Liban, mais aussi à l'égard de la République islamique l'Iran.
Alors, moi, je dirais qu'Israël, aujourd'hui, est dans une situation économique catastrophique. Hein. Je crois qu'elle suit de très près le monde occidental, à savoir les États-Unis et les pays de l'Union européenne, qui sont financièrement dans une position très difficile. Quant à Israël, est dans une situation beaucoup plus catastrophique. Donc aujourd'hui, ça leur pose un certain nombre de problèmes dans l'achat d'armement et de développement de leur propre armement. Donc je pense qu'ils ont de plus en plus de mal à faire face au Hezbollah et à la résistance palestinienne. Donc ils s'adressent aujourd'hui aux gens qui peuvent leur apporter de l'aide. Et malheureusement, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, on continue de soutenir Israël dans sa politique d'ingérence des pays au Moyen-Orient. Donc je pense que c'est vraiment un très gros problème et de très mauvais choix stratégiques faits par la France et l'Union européenne de vouloir à tout prix soutenir Israël. Il faut savoir quand même que depuis un peu plus de 50 ans aujourd'hui, Israël a eu le temps de trouver des compromis pour trouver une solution de paix avec les Palestiniens, une solution de paix avec ces pays environnants. Ce qui, apparemment, n'est pas le cas d'Israël, puisqu'Israël continue à maintenir une très, très grosse pression sur les pays régionaux, les pays qui les entourent, et les pays qui soutiennent Israël. Alors non seulement c'est un très très mauvais choix stratégique, mais si Israël continue dans cette voie, et apparemment, je pense qu'Israël n'existera plus dans 20 ans comme il existe aujourd'hui. Pour une raison toute simple, c'est qu'Israël aujourd'hui avait toujours bénéficié depuis une cinquantaine d'années de l'appui des États-Unis et de l'Union européenne. Mais avec ces grandes difficultés financières, ça va devenir de plus en plus difficile pour l'Occident de soutenir Israël, d'autant plus que l'opinion publique est en train de changer. C'est-à-dire que toutes ces générations qui soutenaient Israël face à la Palestine et aux pays environnants Israël, eh bien cette nouvelle génération ne veut plus ces assassinats permanents que pratique Israël, tous ces bombardements d'ingérence que pratique Israël, notamment au Liban, eh bien les gens sont plus prêts à l'accepter. Et la nouvelle génération des jeunes aujourd'hui, qui ont 20 ans, 30 ans, n'accepteront plus cette ingérence occidentale dans la vie du Proche-Orient, du Liban, de la Syrie. Donc ça, c'est une situation qui va devenir de plus en plus difficile pour Israël de maintenir les positions qu'ils ont. Et s'ils continuent de maintenir cette position, dans 20 ans, Israël n'existera plus.
Monsieur Michel, votre réaction, je vous prie. Est-ce que l'OTAN va continuer accepter aveuglément les ordres d'Israël?
Il faut comprendre les rapports de force à l'intérieur du bloc occidental lui-même. Il y a un axe entre la France et les Émirats. Ce sont deux puissances maritimes. Vous savez que l'impérialisme français se redéfinit depuis environ 2 ans comme une grande puissance maritime mondiale. C'est le fameux livre de l'amiral Koldewey, l'ancien patron du Charles de Gaulle, qui s'appelle Amiral, qui est un livre manifeste. Et les Émiratis, à l'occasion de la guerre du Yémen, ils sont émergés comme une grande puissance maritime qui se déploie depuis le golfe de Sirte en Libye jusqu'au détroit d'Oman. Les Français et les Émiratis ont fait un ensemble d'accords des accords militaires, des fournitures d'armement, des accords économiques, des accords de soft power dans le domaine culturel, mais surtout, ils ont unifié leurs forces et leurs flottes pour tenter d'exercer pour le compte des Occidentaux, avec l'aide des Américains, un magistère sur l'océan Indien, le Golfe Persique et la mer Rouge. Ils appuient directement aujourd'hui, c'est la principale force, ils appuient la 5e flotte américaine qui est au Bahreïn. Et tout cela, évidemment, fait que Paris suit aveuglément la politique israélienne. Pourquoi? Parce que le principal allié des Émiratis, eux, sont devenus le principal allié d'Israël. Il y avait déjà également l'influence des lobbies pro-israéliens. Vous savez qu'il y a deux États au monde qui ont des lobbies pro-israéliens puissants. C'est l'AIPAC aux États-Unis et c'est le CRIF en France. C'est réellement sur la vie politique américaine et française. Il y a l'influence de ces deux lobbies pro-israéliens. Et il faut quand même rappeler que ce qui caractérise Israël et la politique israélienne, c'est ce qu'on appelle sa likoudisation. C'est-à-dire que dans les débuts d'Israël, c'était le socialisme qui était dominant. Et il y avait un courant marginal du sionisme qui existait dans les années 30, qu'on appelait le sionisme révisionniste. C'est en fait le fascisme sioniste d'extrême droite, avec le fameux Jabotinsky, l'homme qui voulait le grand Israël du Nil à l'Euphrate. L'héritier de Jabotinsky, c'est le Likoud de Netanyahou. Et aujourd'hui, la totalité de la politique israélienne, elle est likoudisée, même celle de la gauche. Et évidemment, le lobby pro-israélien aux États-Unis, ou le CRIF en France, est entièrement, il suffit de voir leur position, et sur des positions des likoudiques. C'est tout cela qui fait cette suggestion française. On est bien loin des années 60 de ce qu'on appelait la grande politique arabe du général de Gaulle. Vous savez que le général de Gaulle avait tendu la main à un certain nombre d'États arabes, et Georges Pompidou, par exemple, avait soutenu Kadhafi dans les premières années de la révolution libyenne. Il reste rien de tout ça aujourd'hui, rien de tout ça. La France, elle est la domestique de la politique israélienne, de la politique et de l'agenda américain en Proche-Orient. Mais pire encore, puisque nous parlons du Liban, la France, jusque-là, elle se présentait, depuis l'époque des rois de France, comme le protecteur des populations chrétiennes du Proche-Orient. Aujourd'hui, on vomit la France au Liban, on vomit la France en Syrie, moi je m'en suis rendu compte directement, alors que ces populations étaient encore francophiles il y a une dizaine d'années, et surtout, depuis Jacques Chirac, c'est le domestique libanais des Saoudiens, la famille Hariri, qui est étroitement lié à l'establishment politique français. Tout cela vous explique ce phénomène que vous décrivez, c'est-à-dire cet alignement complet de Macron sur Tel Aviv.
Tout à fait. Monsieur Hugon, alors la France bat tous les records, et surtout celui de la démagogie. Alors, nous parlons également de la prise de position nouvellement de la France vis-à-vis de l'Iran, qui est très choquant, une politique anti-iranienne, très certainement dictée par Israël. Est-ce que la France va continuer d'accepter aveuglément les exigences d'Israël dans la région?
Oui, alors la France n'a plus de politique étrangère depuis la fin des années de Gaulle. Hein. De Gaulle représentait encore une espèce de sauvegarde de cette politique étrangère franco-française. Aujourd'hui, on est directement sous le joug des dictats israéliens, sionistes, américains. Donc aujourd'hui, la France, sur un plan diplomatique international, ne représente plus rien du tout. On peut le voir, moi je me suis rendu de nombreuses fois en Syrie, de nombreuses fois en Iran et au Liban également.
on s'aperçoit que la France, qui représentait une certaine exception au niveau diplomatique et une certaine vue de ce que devait être le Proche-Orient et le Moyen-Orient, et aujourd'hui c'est fini. Depuis très longtemps, depuis 40 ans aujourd'hui, on n'a plus de politique vraiment indépendante, on a une politique de suivisme. Et ceci va nous amener à être détestés du monde comme le sont les États-Unis aujourd'hui. Et ça, on va récolter malheureusement les fruits de ce que nous avons semé. Donc c'est un véritable problème pour l'Union européenne et pour la France plus spécifiquement. Luc Michel a tout à fait raison de rappeler que tout ce qu'on vit actuellement, que toutes les situations que nous vivons aujourd'hui ne sont le résultat que de la politique menée par la France. Et la France, comme je vous le dis, a cette politique de suivisme. Donc on n'a plus du tout, je dirais, d'indépendance politique. Et c'est une très très grave erreur qui est faite sur un plan international. Quant à suivre maintenant les positions vis-à-vis de l'Iran, je ne vois vraiment pas quel danger peut représenter l'Iran aujourd'hui. Au contraire, on doit considérer l'Iran comme un véritable allié, aussi bien économique, financier, peut-être même militaire également. On aurait tout à gagner à ce qu'il y ait des partenariats portés entre la France et l'Iran. Et aujourd'hui, il n'en est rien. On continue d'avoir cette politique de suivisme états-unien, de suivisme sioniste. Et tout ceci nous amènera à une catastrophe dans les années qui viennent.
Monsieur Luc Michel, la France n'a plus de politique étrangère indépendante, comme a dit Monsieur Hugon.
Elle n'en a plus du tout. Et c'est un phénomène qui s'est amorcé dès la fin des années de Gaulle et Pompidou. Il faut quand même constater quelque chose en plus, c'est que la France entraîne d'autres pays dans cette dérive. Vous savez que dans la nouvelle flottille française, Émiratie américaine qui est actuellement en mer Rouge, il y a une corvette belge d'ailleurs qui s'appelle la Léopold Ier. La Belgique qui fait un bras de fer diplomatique actuellement et judiciaire contre l'Iran. Ça, c'est la France, évidemment, qui inspire ces pays. La France, évidemment, il faut dire un mot simplement. Il y avait un grand géopoliticien européen, c'était le général autrichien Jordis von Lausen. C'était un disciple du géopoliticien belge-antirien. En gros, ce sont des partisans de l'Eurasie, de Vladivostok jusqu'à Lisbonne. Lorsqu'il étudiait les guerres du Golfe, et la guerre d'Afghanistan, von Lausen disait que la politique des dirigeants atlantistes de l'Union européenne, c'était une trahison des intérêts fondamentaux des peuples européens. Je partage cette vision. En étant les domestiques, les porteurs de valises des Américains, pas seulement d'ailleurs au Proche-Orient, mais par exemple dans toute l'Afrique, ou en Europe centrale encore, évidemment, les dirigeants européens français en tête, ils nuisent aux propres intérêts de leur peuple, notamment aux intérêts économiques. Vous savez que l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe, c'est-à-dire la petite Europe de Bruxelles qui est en crise économique, elle a un partenaire économique naturel. Il faudrait fusionner les deux Europes, c'est-à-dire l'espace économique eurasiatique de Moscou et la petite Europe de Bruxelles. C'est la complémentarité économique, la complémentarité industrielle, la complémentarité des marchés. Mais surtout, la Russie apporterait dans la corbeille du Matias son territoire et ses matières premières. Il y a de tout dans cet État-continent qu'est la Russie. Il y a du pétrole, du gaz, du manganèse, de l'uranium, des terres. Et au lieu de cela, on applique une politique stupide de sanctions. Vous savez que les sanctions qui frappent l'économie russe, elles frappent tout autant les économies belges ou françaises, par exemple, ou allemandes. Et les Européens, évidemment, participent à un véritable suicide de la puissance européenne.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris, d'avoir participé à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
parole d'experts.
L'Iran et la Chine ont conclu samedi à Téhéran un accord de coopération de 25 ans en discussion depuis plusieurs années. Ce pacte de coopération stratégique de 25 ans a été signé par le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et son homologue chinois Wang Yi en visite à Téhéran. Comment peut-on analyser l'importance économique de cet accord? Xavier Dupré, analyste et économiste belge, nous répond.
Alors d'abord, tout premier point, je tiens à préciser que cet accord de coopération va complètement dans le sens de l'histoire, puisque si je fais référence par exemple aux productions et aux rapports d'une banque, la JP Morgan Chase, donc banque américaine, le yuan détrônera à l'horizon 2030, détrônera dans les réserves internationales à la fois le yen et la livre sterling. Donc c'est tout. Alors que le yuan n'était absolument pas présent dans les réserves des grandes banques centrales il y a à peine 20 ans, à peine une génération. Donc on voit clairement à travers ce type de données que la Chine est une puissance qui s'affirmera davantage chaque jour au cours des années qui viennent, et donc avoir une coopération de long terme avec la Chine est un choix stratégique judicieux. Deuxièmement, cette prise, cette importance du yuan permet de relativiser, et c'est une donnée importante dans la vie internationale, permet de relativiser l'importance du dollar. Puisque plus il y aura de yuan en circulation, plus il y aura de possibilités d'échange direct avec la Chine sans devoir passer par des banques américaines et donc être victime éventuellement de sanctions, puisque les sanctions américaines constituent toujours, passent toujours par le mécanisme suivant, il s'agit de couper un pays des grandes chaînes de paiement en dollars. Et c'est ainsi que le système SWIFT, qui est basé en Belgique, mais qui est une filiale américaine, d'une entité américaine, donc, en réalité, il suffit qu'elle déprogramme informatiquement une banque, déprogramme son code SWIFT, et cette banque, dans n'importe quel pays du monde, se trouve coupée de l'approvisionnement en dollars et en réalité est complètement coupée de la circulation mondialisée du capital. Alors, c'est très intéressant parce que la Chine elle-même est en train de réfléchir et a déjà mis en place un système, le CIPS, qui va permettre en réalité de payer en yuan directement des fournisseurs chinois, ce qui va devenir de plus en plus intéressant, puisque la Chine est occupée à monter en gamme et en valeur ajoutée dans ses productions. Cela signifie que pour toute une série de pays qui ont des soucis avec les États-Unis, des soucis historiques, eh bien tout simplement, en échangeant du yuan, en privilégiant le yuan dans ses réserves, on va pouvoir acheter des biens qui faisaient autrefois l'objet d'un monopole de fabrication de la part des Occidentaux. Et ce, sans devoir passer par des chaînes de paiement et des circuits de paiement qui sont contrôlés par les États-Unis. C'est une voie évidemment importante d'émancipation. Je tiens également à préciser que dans le cadre de cette montée en gamme de l'économie chinoise, qui appelle une montée, une importance grandissante du yuan à l'échelle internationale, qui elle-même suppose toute la mise en œuvre d'une infrastructure de paiement typiquement chinoise et gérée à partir de la Chine, il ne sera même plus nécessaire pour certains pays, pour pouvoir mettre en œuvre un développement économique harmonieux et cohérent, de passer par une place financière comme New York, puisqu'en réalité, il est dans les projets, il entre dans les projets, dans les vues du gouvernement chinois de transformer Shanghai en grande plateforme financière d'échange, de vente et de diffusion du yuan à l'échelle internationale.
L'agression de l'OTAN en Libye, 10 ans après. Dix années après l'intervention otanesque en Libye, qu'est-il advenu du pays longtemps considéré comme l'un des plus prospères d'Afrique ? Cette intervention qui a non seulement créé le chaos sécuritaire en terre libyenne, mais également dans nombre de pays de la région, a par ailleurs tout simplement détruit les fondements étatiques de base. Pour autant, les responsables de cette agression ne se sentent pas coupables jusqu'à aujourd'hui. Fait assez symbolique, cette période commémore aussi bien les 10 années depuis l'intervention de l'OTAN contre la Jamahiriya libyenne de Muammar Kadhafi que le 22e anniversaire des bombardements de la même structure contre la Yougoslavie. S'il est difficile de dire que les responsables de ces agressions répondront un jour pour les crimes commis, aussi bien à l'encontre des civils et militaires des pays concernés, mais également pour les destructions en masse des infrastructures, le fait est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est clairement devenu beaucoup plus difficile pour les cerveaux de ces opérations de mener le même type de campagne sans avoir à en rendre des comptes. Contrepoids des puissances non occidentales et réalité multipolaire oblige. Néanmoins, et pour revenir à la Libye, mars 2011 peut effectivement être considéré comme le début de la fin de l'État libyen en tant que tel. Depuis, d'un État qui pouvait se permettre d'accueillir non seulement des migrants issus de pays régionaux et continentaux, mais même un nombre considérable de citoyens issus de l'Union européenne, on est passé à un pays divisé, devenu un large émetteur de migrants, aussi bien locaux qui fuient l'insécurité et l'absence d'opportunités qu'étrangers utilisant le sol libyen comme terrain de transit. Ces derniers se retrouvent d'ailleurs bien souvent en situation terrible, allant jusqu'à l'esclavage pur et simple, dans nombre de cas d'ailleurs pratiqués par les anciens alliés locaux de l'OTAN dans l'opération de la chute de Muammar Kadhafi, parmi lesquels des bandits et des terroristes. La traite d'êtres humains étant devenue monnaie courante dans la nouvelle Libye post-Kadhafi. Une chose est sûre, la Libye d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à avoir avec la Jamahiriya. Un rappel, et non des moindres, s'impose également, à savoir que l'opération otanesque de 2011 affirmait vouloir protéger les civils. Pour autant, Foreign Policy affirme que nombre de civils ont justement été tués lors de l'opération militaire de l'OTAN et qu'il est temps de faire face aux responsabilités. Un autre auteur de Foreign Policy souligne quant à lui que l'intervention en Libye de 2011 a plongé la région dans une décennie de chaos et a sapé la confiance des États-Unis quant au bien fondé d'utiliser la force militaire pour sauver des vies. Ceci étant dit, il serait sans aucun doute fort naïf que de croire que l'intervention de l'OTAN contre la Jamahiriya libyenne était destinée à sauver des vies. Quant au manque actuel de confiance des États-Unis à pouvoir intervenir à divers endroits du monde sans impunité, cette époque est effectivement terminée, comme rappelé ci-haut, et cela est très principalement dû au contrepoids désormais existant sur l'arène internationale. Pour revenir à mars 2011, l'objectif était clair dès le début, se débarrasser d'un État souverain et prospère pour s'accaparer autant que possible de ses ressources naturelles et prendre d'autres opportunités d'affaires, ainsi que d'éliminer un leader africain et arabe révolutionnaire dont non seulement les idées, mais également les actions avaient beaucoup contribué à aider nombre d'autres pays africains. Cela sans même parler des énormes projets que Muammar Kadhafi comptait réaliser pour les bienfaits non seulement de son pays, mais aussi pour tout le continent africain. Désormais, cela ne représente plus que des rêves non réalisés. Mais l'autre chose marquante et qui est toujours si propre à la mentalité des élites atlantistes, c'est l'arrogance permanente qui les caractérise. Tout comme, encore une fois, l'hypocrisie extrême. À ce titre, l'appel d'Emmanuel Macron afin que les forces turques et russes quittent le sol libyen au plus vite est pour le moins ridicule. Lorsqu'on sait quelle énorme responsabilité porte justement son pays dans la crise et le chaos qui perdure en Libye depuis l'intervention de l'OTAN de 2011. Une intervention dans laquelle la France de Sarkozy a joué d'ailleurs un rôle de premier plan. Et que si l'Élysée souhaitait réellement avoir un quelconque rôle positif dans le dossier libyen, qui, malgré la mise en place d'un gouvernement de transition, est encore loin d'être réglé, peut-être qu'il faudrait commencer par faire un sincère mea culpa pour la situation qui perdure dans ce pays depuis les conséquences de l'intervention otanesque. Ces excuses doivent aller aussi bien à l'encontre du peuple libyen, mais également tous les autres peuples d'Afrique dont les pays ont connu une vive recrudescence de terrorisme, notamment dans la région du Sahel, dont l'une des principales raisons est justement le résultat de l'intervention en Libye. Notamment au Mali, où la présence militaire française date depuis déjà de longues années au motif de lutter contre le terrorisme sans y obtenir de résultats réellement convaincants. La société civile malienne en sait quelque chose, d'où sa vive opposition à cette présence.